Bonsoir Benoît Bouscarel, nous sommes ce soir à Valence dans les studios de France Bleu Drôme-Ardèche. Sur la route, Julie Gacon avec Yvon Croisier et Sophie Bobert.
Oui.
Bonjour.
Bonjour mademoiselle.
Avec Yvon, on se disait que vous aviez de très belles chaussures.
Ah, les chaussures, oui, ça j'adore. Ça c'est un truc, c'est le luxe de l'homme, en fait.
Le luxe de l'homme.
Mais oui, parce que les hommes portent toujours des chaussures marron ou noires, et de porter des chaussures de couleur, c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est l'accessoire qui permet de mettre en valeur l'homme.
Alors là, il faut décrire, vous avez des mocassins.
Alors, j'ai des mocassins. En fait, ce ne sont pas des mocassins, ce sont des vernis rouges. Et je trouve que voilà, ça permet de mettre une touche de couleur sur un homme.
Est-ce que je peux vous demander où vous les avez achetés?
Ah, je les ai achetés chez Robert Clergerie. Voilà.
Vous faites dans le Made in France.
Ah, mais totalement. Je trouve qu'effectivement, c'est très dommage aujourd'hui d'aller acheter des chaussures à l'autre bout de la planète, alors qu'en France, on a été capable de produire des chaussures, des bijoux, des vêtements, et pas forcément toujours à des prix exorbitants.
Surtout que vous habitez à quelques kilomètres de Romans.
L'avantage, c'est que j'habite Valence, et qu'effectivement, de ce fait-là, Romans, c'est à 15 kilomètres. Donc, on avait les usines, il y en a moins aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de chausseurs à Romans à l'époque. Et on pouvait trouver des magasins d'usine qui nous fournissaient des chaussures extraordinaires, quoi.
Vous avez quel autre genre de petites pompes ?
Alors, des pompes façon golf, bleu, ciel et blanc, des bottes, des chaussures en léopard.
En léopard ?
Oui, enfin, façon léopard, c'est amusant. Bon, ça se porte pas beaucoup, ou pas du tout même. Mais porter une fois ou deux fois dans sa vie, c'est quelque chose d'amusant.
Voilà. Et quand on les met pas, on en fait quoi ?
Eh bien, quand on les met pas, on les met en collection dans une chambre, on les affiche au mur ou on les met dans un tableau ou voilà, ça forme des choses amusantes.
Et donc, on est vraiment tombé sur un grand fan de chaussures.
Ah, j'aime bien les chaussures. Oui. J'aime bien les chaussures. Je suis pas fétichiste, mais j'aime bien les chaussures. Voilà.
Un homme qui marcherait dans la rue en marinière Armor Luxe, en pantalon Saint-James, en chaussures Clergerie ou Kélian, montre Lip et accessoirement en slip français. Cet homme dont rêve un ministre de l'économie, eh bien cet homme existe, que ce soit par militantisme ou par simple goût, soutenu par un portefeuille en tant soit peu garni car la qualité a un prix. Le Made in France a, semble-t-il, encore des adeptes. Nous serons ce soir dans une ville qui s'est enorgueillie de son travail du cuir. Une ville où les usines marchaient, produisaient des milliers de paires de chaussures, plates ou à talons, avec ou sans lacets, en cuir retourné, bouilli ou tressé. À Romans-sur-Isère, dans la Drôme, ces usines ont fermé les unes après les autres. Des centaines de personnes ont perdu leur emploi. Les magasins ont dû tirer le rideau. Mais sous l'impulsion de certains qui y croient encore, des ouvriers ont repris le chemin de l'atelier et leur place devant les machines. Nous avons ce soir deux invités pour en parler, deux générations de la chaussure française. Bonsoir Gérard Kélian.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Gérard Kélian, l'un des trois frères Kélian qui avait donc cofondé la marque Stéphane Kélian, c'était en 1960 par là ?
Oui, exactement. Oui.
Et à l'époque, vous étiez déjà la dernière née des trois grandes marques rouennaises.
C'est en revenant de l'armée, dans les années 56-57, que j'ai créé, en tant qu'artisan, un petit atelier où nous étions pratiquement deux ou trois à travailler. Et progressivement, on s'est développé.
Vos parents venaient d'Arménie, vous aussi peut-être ?
Oui, je suis d'origine arménienne, mais je suis né à Romans. Je m'appelle Kello Glagnan, et Kélian, c'est les trois premières lettres de mon nom et les trois dernières. Et ça a fait Kélian. Et Stéphane, c'était le prénom de mon jeune frère. Et on trouvait que Stéphane Kélian, ça sonnait très bien dans les pays anglo-saxons. C'est ce qui nous a permis de mettre ce nom-là. Progressivement, après le fait d'avoir une situation d'artisan, on a tout doucement grandi. Il s'est trouvé que les produits qu'on fabriquait étaient exceptionnels. La chose qu'on a compris avant tout, c'est que malgré la difficulté de la chaussure à l'époque, il y avait quand même une place pour ceux qui faisaient des choses d'exception. Et notre démarche a été de faire des chaussures d'exception, que personne n'était capable de faire. Donc, de ce fait, on l'a grandi très très vite.
Et vos chaussures d'exception à vous, c'était les chaussures en cuir tressé qui ont fait la renommée de Stéphane Kélian.
Voilà, on a fait des chaussures, on a tout inventé, le système, de la découpe à lanière, à la préparation des pots, à la formation du personnel, ensuite à l'organisation du travail. Il a fallu tout créer de toutes pièces, et il est vrai que ça a très très bien marché. Et nous sommes arrivés à un moment où notre chiffre d'affaires et nos résultats étaient tellement satisfaisants que nous sommes rentrés en bourse au second marché à Lyon.
C'était en quelle année ça?
À peu près. Dans les années 85.
Donc vous êtes entré en bourse et puis Kélian est devenu une grande marque de la chaussure française vendue dans le monde entier, mais qui subira comme tout le secteur du luxe la crise des années 80, 90 et puis 2000, mise en liquidation judiciaire en 2007. On y reviendra, monsieur Kélian.
Je précise quand même que la crise ne nous a pas touchés. C'est mon départ. On m'a annoncé un jour que j'avais un cancer et automatiquement il a fallu que je prépare ma mort. Mais il se trouve que j'étais bien soigné, je suis toujours là. Et j'ai vendu mes actions, et quand j'ai quitté l'entreprise, mes frères ont suivi, on a tout vendu le capital, et c'est les repreneurs, des gens incompétents, qui ont fait mourir l'usine.
C'était des financiers.
Mais nous, tant que nous y étions, l'affaire marchait très bien. On n'avait pas de problème.
Ce n'étaient pas des amoureux de la chaussure qui ont repris votre affaire.
Non, c'était des espèces d'imbéciles, des financiers. C'est déplorable. Je ne veux pas trop revenir là-dessus. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'à un moment, lorsqu'ils ont déposé le bilan, les cadres sont venus me trouver, ainsi que des fabricants français, pour qu'on reprenne l'affaire. Et si on nous avait donné l'affaire à l'époque, Kélian existerait toujours. Parce que s'il y en a un qui était capable de relancer l'affaire, c'est bien moi.
C'était Kélian, c'était vous. Est-ce que vous connaissez la bonne nouvelle, Gérard Kélian? La relève est en place.
Ah oui, je suis ravi. Et je suis ravi aujourd'hui de faire sa connaissance.
Eh bien, je vous présente
et
Xavier Porro.
J'irai leur dire bonjour.
Bonsoir, Xavier Porro.
Bonsoir.
Alors, comment vous présentez? Vous êtes cofondateur avec Priscille Demanche des marques Ellipse et Bichette. Donc, deux marques de chaussures toutes nouvelles sur le marché français. Vous venez d'installer vos propres ateliers à Bourg-de-Péage, donc juste à côté de Romain. Et monsieur Kélian vous promet qu'il viendra vous y rendre visite. Et donc vous mettez aussi à disposition des créateurs français vos services et puis surtout un savoir-faire. Xavier Porro, pourquoi vous êtes installé ici à Romans, vous qui êtes mi-jurassien, mi-parisien? Vous auriez pu choisir Cholet, Fougères, Limoges. Il y avait tout un tas d'options.
Alors déjà merci de me recevoir et je suis honoré de rencontrer monsieur Kélian, qui est quand même un monument de la chaussure. Alors pourquoi on a choisi Romans? Déjà premièrement parce que Priscille Demanche a gagné un premier prix européen de création en chaussures organisé par la ville de Romans en 2007.
Priscille, c'est la styliste.
Voilà, exactement, c'est la styliste. Et c'est grâce à la ville de Romans qu'elle a eu ce prix et qu'on a mis un pied dans la chaussure, si je puis dire. Moi-même, je suis ingénieur de formation, ingénieur dans le secteur de l'industrie. J'ai toujours eu envie d'entreprendre. Alors pourquoi Romans? À un moment, on a recherché des solutions de fabrication en France. Et puis, c'est une affaire de rencontre, c'est-à-dire qu'on a, par un heureux hasard, malheureux pour ces personnes-là, mais le groupe Royer, qui fabriquait jusqu'au début 2014 les marques Charles Jourdan et Stéphane Kélian, à Bourg-de-Péage, fermer son site. Et c'est à ce moment-là que nous avons rencontré les anciens qui avaient été formés à la maison Kélian ou dans la maison Jourdan. Et à un moment, on s'est dit, mais ces gens-là ont de l'or dans les mains. Ces gens-là sont des gens exceptionnels dans la chaussure et on ne trouvera pas ces savoir-faire ailleurs.
C'était des gens qui avaient été formés notamment par vous, monsieur Kélian.
Absolument.
C'est tous des salariés, je les ai tous formés de A à Z.
Ah oui, et aujourd'hui d'ailleurs ces salariés, quand on leur parle de Gérard Kélian, ils ont un profond respect pour tout ce qu'ils ont pu acquérir chez vous.
Alors vous, Xavier Porro, avant d'ouvrir les portes de l'usine le 3 août dernier,
tout à fait,
c'est ça, vous faites appel à ces anciens ouvriers de la chaussure. Vous êtes passé par Pôle emploi pour les trouver. Comment est-ce que vous avez été mis en contact avec eux?
Eh ben, tout simplement, la veille de la fermeture début 2014 du site Royer, j'ai vu passer une circulaire, j'ai pris le premier train et je suis allé les voir.
Et vous, voilà. Et racontez-nous le jour où vous avez ouvert les lieux.
Alors, en fait, il faut savoir qu'entre le moment où je les ai rencontrés et le moment où on a ouvert l'usine, réouvert l'usine, il s'est passé un an et demi pendant lesquels les gens ont fait preuve d'une patience extraordinaire, parce que c'est dire l'amour qu'ils ont pour la chaussure, et où je les tenais informés très régulièrement de où on en est, comment on avance, où on va. Et résultat, ça nous a amené au 3 août, où on a passé, on va dire, un à deux mois de négociations avec le groupe Royer, qui a eu confiance en notre projet. Mais à un moment, racheter une usine, racheter des machines, reprendre des savoir-faire, c'est du juridique, c'est beaucoup de lourdeur administrative, et puis ça prenait du temps. Et le 3 août, on a donné rendez-vous aux salariés, on n'avait même pas la certitude de pouvoir ouvrir l'usine, parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir avoir les clés. Je suis revenu les mains dans les poches, j'ai lu la déception des gens sur le visage, et là j'ai sorti de ma poche la clé, et là ça a été un soulagement extraordinaire et un moment d'émotion très intense.
Voilà, s'installe aux machines ce jour-là des ouvriers qui les connaissent déjà très bien, ces machines, et qui les font résonner comme avant.
C'est une machine qui est très compliquée. C'est la moulinade, c'est le montage des bouts, la tige sur forme. Voilà.
Donc là, vous avez entre les mains ce qui sera bientôt un escarpin noir.
Voilà. Je vais le monter, ça va être juste l'avant. Après, vous verrez par la suite, il y aura les cambrures à fermer et les embrotages aussi. Donc je positionne mon pied, je contrôle si mon deuxième pied correspond bien au pied gauche. Là, je vais fermer la chaussure. Donc, c'est les plaques avec les téflons. Et là, le bout, il est fermé. Le bout, on dit la claque, hein, bien sûr. Hein. Vous voyez, parce qu'on travaille à la paire. Voir si mes hauteurs, elles sont pas, c'est pas décalé.
Si vous n'avez pas un 36 et un 42.
On ne peut pas se permettre d'avoir un pied droit ou pied gauche. Un qui soit plus haut que l'autre. Au niveau confort, ça ira pas, quoi.
Ignacio Zarcon, est-ce que vous vous rappelez la journée du 3 août dernier, le 3 août 2015, jour où vous êtes arrivé ici dans ces ateliers d'Ellipse ?
Excusez-moi. Je me rappelle très bien sûr. Après tant d'années. Excusez-moi, je suis ému là. Parce que je ne voulais plus entendre parler de la chaussure. Sincèrement, plus du tout. Il y a eu ce projet qu'on m'a présenté en peu de temps, on m'a présenté ce projet. On me l'a présenté au dernier moment et sincèrement, je ne voulais pas revenir dans la chaussure. Je ne voulais pas entendre parler parce que je sors de chez Jourdan, on a vécu, j'ai travaillé 27 ans chez Jourdan, on a vécu des bons moments et les dernières années, c'était très très difficile. Alors on peut faire le malin. Quand on dit, ouais, on ira faire autre chose, on fera autre chose, mais bon, quand tout votre, un quart de votre vie vous avez passé dans la chaussure, ça m'a fait mal, quand il y a eu la liquidation. Donc c'était en décembre 2007. Ensuite, eh ben, j'ai changé de direction, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'étais responsable, chef d'équipe, en traitement de charpente, isolation dans le bâtiment. Et donc j'ai démissionné le 3 août, j'étais présent et je me suis dit c'est un beau challenge qui m'attend et je veux laisser quelque chose derrière moi. Je ne pouvais pas lâcher, il y avait l'opportunité de laisser quelque chose, ce qu'on m'a appris. Les anciens, moi je les appelle les anciens de chez Jourdan, hein, ceux qui m'ont appris l'amour du métier hein, pour dire, hein, et tout ce que je sais faire au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à eux. Je les en remercie d'ailleurs. J'ai pas eu l'occasion de leur dire. Il y a des jeunes bon, qu'il va falloir former parce que la formation. Donc voilà, moi maintenant mon but c'est d'abord d'aider les nouveaux patrons et participer à ce projet qui je pense qu'il va être magnifique. C'est le début. on espère que ça va durer. Vous savez, quand une entreprise qui est jeune, on ne sait jamais. Hein, mais bon, moi, j'ai pris le risque hein, et ça ne me fait pas peur. Et ça m'a fait quelque chose quand je suis revenu. Ben, je me suis dit, après tant d'années, me revoilà dans la chaussure. Et j'espère que les gens qui sont, vous savez, en haut, là, les bien placés, qu'on aide des jeunes entrepreneurs, quoi. Et puis le Made in France, tout le monde parle du Made in France, c'est la mode. Bon, ben, il faudrait que maintenant les gens, les décideurs, aident tous ces gens-là, quoi. Et sincèrement, ils sont jeunes, les patrons, ils ont vraiment le courage, hein.
Quel est le poste que vous avez occupé à votre arrivée ici ?
Ben, je suis responsable de fabrication. Moi, quand j'étais chez Jourdan, si vous voulez, j'ai commencé, comme on dit, hein, en bas de l'échelle et j'ai fini agent de maîtrise. Bon, après, ça sera mon rôle aussi de transmettre ce qu'on m'a appris dans la chaussure.
Qu'est-ce que ça veut dire, commencer en bas de l'échelle dans la chaussure, Ignacio ? Vous avez commencé par quoi chez Jourdan ? Et vous aviez quel âge ?
À l'âge de 19 ans, parce que je commençais depuis l'âge de 16 ans, je travaille. Mais je suis rentré chez Jourdan en janvier 81. J'allais avoir 20 ans et il y a des petites mains, on dit des petites mains. On peut faire passer de la colle, préparer des chariots, vous savez, les formes, les composants pour faire une chaussure. Donc on m'a fait voir certaines choses et j'ai voulu apprendre la chaussure, comment fabriquer une chaussure et comment la monter surtout. Voilà. Et voilà, quoi, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Et non seulement on a envie de travailler, c'est pas envie de travailler. Hein. C'est de vouloir et d'aimer après ce qu'on fait. Hein. Parce que si c'est juste pour travailler, vous n'allez pas loin. Voilà. Il faut aimer la chaussure. C'est pas, voilà, je monte une chaussure, on dit monte une chaussure. Les gens qui ne connaissent pas, ils disent, bah, tiens, c'est facile, il faut appuyer sur les pédales. On me l'a dit déjà. Ah oui, mais il faut y être derrière la machine. Et oui, il faut connaître. Voilà. Donc une chaussure complète, moi je peux la monter même à la main, sans les machines, on m'a appris ça, les anciens.
Vous avez quel souvenir de Charles Jourdan, grande époque ? Vous étiez combien à l'époque dans l'usine ? Ça fourmillait, il y avait du monde ?
Moi je suis rentré, moi c'était en janvier, oui, comme je vous ai dit, en janvier 81. Alors, pour être entre 1200 ou 1600, ou plutôt 1200 sûrement, peut-être en 80 encore. Ah mais là c'était une fourmilière. C'était familial quand même. Hein. Moi, je me rappelle, bon, on était jeunes, hein, il y a eu des bons moments, il y a eu des moments où j'étais en pleine jeunesse. Hein. Bon, c'était une grande famille et puis on a passé les bons moments. C'était...
Vous avez connu une époque faste et vous avez connu les moments très difficiles des années 2000.
Ah oui. Voilà. Oui, d'abord, ça commençait en 86, hein, il faut le savoir. Hein. Les licenciements chez Jourdan. Hein. En 86, ça a commencé les premiers licenciements, les gros licenciements. On a connu des moments très très difficiles. Hein. On passait plus de temps à un moment donné au tribunal que dans les ateliers.
Parce que vous avez vu des collègues partir ?
Ah oui, ça fait mal hein, de voir partir. Ben, les licenciements, les plans économiques, il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Hein, voir les collègues partir, voir la plupart des femmes, les pauvres que. Ça pleure plus facilement, hein. Oui, ça fait mal. Moi, au tribunal, j'en ai vu pleurer des collègues, hein, des dames, là, qui étaient vraiment tristes. Et puis, ça fait mal, ça. Ils voulaient tous nous racheter. Je veux dire sincèrement, moi, j'ai pas ma langue dans ma poche. Ça a été tous des voyous. Là, à la fin, c'était au casino. Moi, je me croyais au casino. J'aurais dit, mais je joue à la roulette, parce qu'il y avait les... Ben, tous les projets, ils étaient plusieurs, ça joue au casino, ils sont crus au casino.
Les projets de reprise.
Ah oui, oui, oui.
C'était pas des gens qui avaient l'amour de la chaussure.
Oh non, 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 non. Vous les voyez jamais, eux, c'était les résultats qu'ils voulaient, eux, c'était des financiers. Les financiers, si vous connaissez pas la chaussure, vous voulez faire quoi avec des financiers ? C'est dommage parce qu'on avait du travail. Hein. Bon, c'était Jourdan quand même. Hein. Jourdan, de ce qu'on était, mondialement connu, on est devenu des petits. Non, mais là, on a passé des mauvais moments. C'était dur, hein, c'était dur. Et on est resté humble. On n'a pas fait de crise. On n'a rien cassé. Franchement, sincèrement, on était bien. On est parti nous, la tête haute, nous. On est parti, les employés, les ouvriers, voilà. Mais mauvais souvenir. C'est pour ça que je ne voulais plus entendre parler de la chaussure.
Donc on est venu vous chercher pour participer
aventure, reprendre.
On vous l'a proposé.
Ouais, on vous a proposé de revenir.
J'ai pas réfléchi. Sincèrement, j'ai pas réfléchi. Je donne ma démission. Faites-moi une promesse d'embauche et j'arrive. Et j'ai démissionné. Et j'ai commencé le 3 août 2015. Voilà, c'est magnifique. Voilà.
Sur la route du Made in France, nous sommes dans les studios de France Bleu Drôme Ardèche à Valence avec nos invités Gérard Kélian et Xavier Porot, cofondateurs respectifs des marques Stéphane Kélian et Ellipse. Xavier Porot, c'est pas évident quand on a quoi une trentaine d'années, c'est ça? Vous avez
31 ans,
de se dire qu'on va travailler avec des salariés, des ouvriers de 50 ans avec beaucoup plus d'expérience que soi, tout comme c'est pas évident à 50 ans pour eux et avec plus de 20 ans de métier d'être dirigé par des trentenaires, parisiens et novices. Comment ça s'est passé au début?
Eh bien, j'ai eu, un discours assez clair. Je leur ai dit, donnez-moi les meilleures machines du monde, donnez-moi les plus beaux cuirs du monde, je suis personnellement incapable de faire des chaussures. Et ce que je sais faire par contre, c'est développer une entreprise. Est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à quelque chose? Vous avez un savoir-faire en or, où chacun en tire un bénéfice et où on arrive à revaloriser ce savoir-faire. Et finalement, c'est ce discours-là, je pense qu'il leur a plu. C'est, je pense qu'il y a, il faut savoir être humble. On a tous besoin les uns des autres. On peut pas courir après deux lièvres à la fois et nous sommes tous complémentaires.
Gérard Kélian, à peu de choses près, ce savoir-faire aurait pu se perdre quelque part dans la nature si cet atelier n'avait pas rouvert. On est loin de l'époque où chaque famille romanesque travaillait de près ou de loin dans la chaussure et où la transmission de génération en génération se faisait naturellement. Époque que vous avez connue.
Non mais, il est vrai qu'aujourd'hui, le savoir-faire chez Kélian, en grande partie, il a disparu. Ce qui reste, c'est très marginal. Je pense que ce Xavier, je lui souhaite bien du courage pour réussir, mais 90% du savoir-faire de Kélian a disparu.
Qu'est-ce qu'ils sont devenus vos anciens ouvriers?
Bah, ils sont tous dans le paramédical, dans l'hôpital, la parisienne, dans des entreprises, ils se sont tous reclassés, quoi. Moi-même, j'ai fait quelques stages à l'hôpital et à la clinique la parisienne. J'étais surpris de voir que des jeunes filles venaient m'embrasser parce que c'était de mes anciennes ouvrières. Mais le savoir-faire, en grande partie, a disparu.
Et elles portaient vos chaussures?
Il n'y a pas que le savoir-faire, il y a toute une organisation. Chez Kélian, il y avait une organisation exceptionnelle, en flux tendu. Ça veut dire qu'on fabriquait des chaussures en un minimum de temps, sans encours, sans immobilisation financière. Moi, j'étais président de la commission technique de la fédération et de ce fait, je voyageais dans le monde entier. Parce qu'en plus, on vendait notre savoir-faire dans les entreprises du monde entier. Américaines, allemandes, italiennes. Donc de ce fait, je connaissais les usines de chaussures du monde entier. À vrai dire, j'ai pas connu une seule usine aussi bien organisée que la nôtre.
Mais le Made in France se vend bien partout dans le monde, Xavier Porot. Mais c'était pas au départ votre choix initial que de faire du Made in France 100%.
Tout à fait. Notre choix au départ, c'était de faire des chaussures. Et en France, au départ, on n'a pas trouvé. C'était en 2009, quand on s'est lancé. Nous n'avons pas trouvé d'usine en France capable de nous servir. Faute d'organisation, faute de savoir-faire qui était un petit peu disparate. Et nous sommes allés en Espagne, où il y a encore une filière industrielle organisée et des gens capables de vous fabriquer, avec ses limites. Au bout de 4-5 ans de collaboration avec des usines espagnoles, on s'est rendu compte que si on voulait vraiment faire des produits, alors en toute humilité, on n'y est pas encore, mais du niveau de ce qu'a pu être du Kélian ou du Jourdan, il fallait qu'on puisse se reconnecter avec un outil de fabrication et avec des savoir-faire en local pour pouvoir aboutir nos produits.
Et vous les avez trouvés tous?
Bah écoutez, moi je rebondis sur ce que dit Monsieur Kélian, c'est que effectivement, je crois aujourd'hui qu'une très grande partie des savoir-faire a disparu et la grosse difficulté que nous avons eue, ça a été de faire le casting et d'aller chercher les derniers savoir-faire de très haut niveau qui restent et qui vont bientôt partir.
Gérard Kélian, à l'époque où vous sévissiez, tous les produits dont vous avez besoin et toutes les étapes de fabrication, tout se faisait dans la région de Romans, jusqu'au cuir même peut-être prélevé à même les bêtes des troupeaux de la Drôme.
Ben, c'est pas compliqué, ma devise c'était d'aller chercher les matières premières le plus proche de Romans. Quand on a une organisation en flux tendu, il faut avoir une collaboration parfaite avec ses fournisseurs. Donc le cuir, c'était les magisseries, une magisserie romanaise, c'était les tanneries de romanaise, c'était les fabricants de formes à 10 km de Romans, c'était tout se passait dans un environnement de 100 km autour de Romans. C'est ce qui nous permettait de travailler dans les meilleures conditions.
Les lacets, les talons, est-ce que vous, Xavier Porot, aujourd'hui, vous avez les mêmes conditions pour repartir sur un même point de départ?
Non, et c'est un point très difficile. Moi, j'ai fait un constat très simple. Je me suis posé la question de pourquoi le Made in France est cher? Pourquoi un produit, même cahier des charges, fabriqué en Italie et fabriqué en France, il y a 40% d'écart de prix de revient de fabrication quand on consulte en tant que marque un fabricant, alors qu'il n'y a pas 40% d'écart sur le salaire moyen en Italie et en France? Et la clé de la réponse, c'est exactement ce que Monsieur Kélian disait, c'est la maîtrise de la chaîne fournisseur qui aujourd'hui a en grande partie disparu en France.
Et vous êtes en train de... Vous pouvez la reconstituer, cette chaîne-là ?
Alors effectivement, on est obligé de travailler avec une raquette à trous. Alors pour combler les trous, malheureusement, certains composants, on ne peut plus les trouver en France. Et il faut pouvoir aller sillonner l'Europe, aller chercher les meilleurs fournisseurs, que ce soit en Espagne, en Italie, voire au Maghreb, parfois, dans certains cas. Mais progressivement, on va y arriver.
Gérard Kélian, vous entendez comme Xavier Porot repart de loin, comme il faut repartir de loin pour relancer tout ça. Vous avez connu Romans dans sa période faste, la période faste de la chaussure. Ça ressemblait à quoi dans vos ateliers à vous? Vous employez combien de personnes, par exemple?
Non, mais il faut bien avoir conscience que Romans, c'était la place mondiale de la chaussure. Les meilleurs ouvriers du monde entier se trouvaient à Romans. Et je dis les meilleurs ouvriers parce qu'ils avaient une certaine fierté de travailler dans la chaussure. Et moi, j'ai connu cette époque tout gosse. J'ai travaillé dans les usines de Romanèse, mais les ouvriers de chaussures avaient été fiers de faire le métier qu'ils faisaient. Et malheureusement, on a vu disparaître tous ces métiers parce que d'une part, les charges sociales qu'avait en France, les politiciens qui s'en foutaient totalement des industries de main d'œuvre et qui nous ont laissé mourir. Parce qu'on avait une concurrence quasiment déloyale par rapport à l'Italie, par rapport à l'Espagne, par rapport au Portugal. Ils n'ont jamais rien fait pour sauvegarder les industries de main-d'œuvre. Donc les hommes politiques, de tout temps, sont responsables de la mort des industries de main-d'œuvre.
Mais alors comment on peut expliquer que certaines marques romanesques comme Robert Clergerie ou Laure Bassal, la marque de Pierre Catty, ont subsisté et que les autres ont fermé?
Bah parce qu'ils faisaient des trucs déception. Bon, bah Robert Clergerie, c'était un homme dynamique qui a su motiver son personnel. Et il est arrivé à résister, mais la plupart des fabricants ont fermé. Hein.
Le Robert Clergerie, il a été racheté par des Chinois,
oui,
en 2011, mais il a conservé à peu près son personnel.
Il a conservé, bon, quand il a racheté son usine, était à deux doigts de déposer le bilan. Bon, il a racheté dans de bonnes conditions. Finalement, il n'a pas fait une mauvaise affaire. Il a repris son entreprise qu'il avait bien vendue. Il l'a reprise et il a de nouveau très bien revendu. Maintenant, est-ce que ça va tenir? Bon, je souhaite que ça tienne.
Vous, Xavier Porot, avec votre regard de consultant en stratégie à l'origine, comment vous pouvez expliquer avec le recul le déclin de la chaussure à Romans?
Mon analyse, c'est l'analyse, je dirais, de quelqu'un qui a un œil neuf et qui n'a pas l'histoire et le vécu de Monsieur Kélian, bien entendu. Mon analyse, c'est peut-être que à un moment, il y a eu une nécessité, je crois, d'évoluer peut-être sur la question du style pour répondre à une clientèle. Et malheureusement, ça a desservi l'aspect industriel. C'est-à-dire que je crois que la marque Jourdan, Kélian, je ne sais pas, parce que je crois qu'il y a quand même, ça marche toujours Kélian aujourd'hui. Hein, donc c'est pour une bonne raison. Mais je pense que Jourdan n'a pas su évoluer en termes de style, en termes de communication avec sa clientèle. Et malgré tout, on avait des savoir-faire extraordinaires qui n'ont pas pu tenir à cause de ça. Et d'autres raisons probablement également politiques, mais là qui pour le coup m'échappent un peu plus.
Alors le repreneur des marques Elian et Jourdan en 2007, une grosse pointure qui était à la tête de licences comme Converse, Dim, New Balance, Kickers et autres, et qui est d'ailleurs pas le dernier à délocaliser en Asie habituellement, mais lui avait misé pour ces chaussures-là sur le Made in France, ça n'a pas marché pour autant. Pourquoi vous réussiriez là où d'autres ont échoué ?
Alors là, la première réponse par rapport à ça, c'est que le groupe Royer, quand ils ont remonté un pôle industriel pour les marques Charles Jourdan et Stéphane Kélian, ne fabriquait que ces marques-là. Nous avons une stratégie qui est différente, qui consiste à faire une usine ouverte, dans le sens où nous ne fabriquons pas uniquement nos marques, mais également nous accueillons des projets de marques et de créateurs qui souhaitent faire de la chaussure de luxe. Et nous mettons à disposition des savoir-faire d'exception, les anciens de Kélian, les anciens de Jourdan, pour pouvoir permettre à ces projets d'émerger et de se développer. Et moi, personnellement, j'apporte une organisation, une rationalisation qui va nous permettre d'avoir des prix de revient qui sont tenables. On parlait de cet écart de 40%. Aujourd'hui, avec le soulier français, donc qui est le nom de notre usine, nous sommes sur des tarifs qui sont ceux de l'Italie.
Incarnation, on m'avait dit que j'allais rencontrer la meilleure tresseuse de France, la meilleure tresseuse de chaussures de France, mais vous n'êtes pas aujourd'hui installée à une machine de tressage, ce n'est pas à l'ordre du jour.
Non, pas pour le moment. Pour le moment, nous débutons, donc on fait beaucoup de sous-traitance, donc Fred Marceau, Amélie Pichat, et puis Pamela Anderson que tout le monde parle.
Pamela Anderson ?
Oui, on va faire une collection Pamela Anderson. Ah, vous ne saviez pas ? Vous êtes les seuls, hein. Je vous montrerai un article après. Le Parisien en a parlé, hein, sur Internet.
Je ne suis jamais au courant.
Voilà, donc pour le moment, on démarre comme ça, petit à petit. Et le jour où il y aura une demande de tressage, eh ben, je serai là.
Le grand spécialiste du tressage, de la chaussure tressée, c'était Stéphane Kélian,
oui.
Pour lequel vous avez travaillé pendant de très nombreuses années,
oui.
Incarnation.
Ben oui, tout à fait, pendant plus de 32 ans, de 1974 jusqu'à la fermeture en 2005. Quand je suis rentrée, c'était la petite usine. Progressivement, on a grandi. Le tressé a eu un gros boom, même ce qui a très bien marché. On a fait des choses inimaginables en tressé, des très beaux modèles. Ça a très très bien marché, jusqu'au jour il y a eu un peu le déclin et la société a été revendue, enfin mise en liquidation judiciaire, rachetée par le groupe Smato du Ménil, qui a tenu 2 ans et qui nous a relicenciés en 2007.
Racontez-nous vos débuts chez Stéphane Kélian. Vous dites 1974, vous étiez
oui.
Toute jeune.
17 ans. 17 ans. Bah, à l'époque, si on n'avait pas envie de faire des études, on trouvait du travail facilement dans une usine de chaussures. Moi, j'ai eu cette chance de rentrer chez Kélian. À l'époque, chercher quelqu'un pour aider une contremaîtresse. Donc voilà, donc je suis rentrée progressivement. Elle m'a appris un tout petit peu à faire les... Moi, je savais faire les tresses à 3 parce qu'en ayant les cheveux longs, on se faisait des tresses à 3. Mais quand elle m'a dit une tresse à 4, je dis, je fais quoi de ma 4e lanière ? Donc elle m'a montré progressivement. Cette dame est partie à la retraite et après j'ai continué avec Gérard Kélian. Alors des fois c'est moi qui l'ai surpris en faisant des créations de modèles parce que je travaillais avec le style, j'étais en développement. Alors des fois il venait, il me disait je sais pas comment t'as fait mais c'est bien. Et des fois c'était lui qui me disait viens je vais te montrer quelque chose, faudra que tu le fasses comme ça. Et on était assez complices là-dessus, on travaillait très bien ensemble et c'était très agréable.
Donc on tresse le cuir des chaussures comme on tresse les cheveux.
Pas tout à fait pareil, mais ça serait de la même façon. À part que le cuir, on commence à 3 lanières et on peut aller jusqu'à 100. Et moi, mon plus grand plaisir, c'était de réussir à faire quelque chose qui était impossible et quelque chose qui resterait et qui un jour se retrouvera aux puces et quelqu'un qui dirait « mais comme elle a fait la personne ?»
Vous voyez déjà la chaussure Opus. Dans une friperie vintage.
Voilà. Non, mais vous savez, ça, j'ai souvent pensé à ça.
Et c'était Incarnation qui l'avait fait à l'époque.
J'aurais dû le signer à l'intérieur.
Donc vous avez travaillé chez Kélian dès l'âge de 17 ans. Vous étiez de Romans-sur-Isère à l'origine?
Oui. Pas née à Romans, mais romanaise.
À quoi ça ressemblait Romans dans les années 70 et surtout le cœur économique de Romans, c'est-à-dire les usines de chaussures? Est-ce qu'on était encore dans une période un peu faste quand vous avez commencé?
Oui, parce que Jourdan, c'était la grosse usine. Enfin, la boîte à rentrer, c'était chez Jourdan, hein, parce que c'était le summum Jourdan. Donc après, il y avait Fenestrier, qui n'était pas encore Clergerie. Fenestrier, il y avait René Cathy derrière la gare. Il y avait Wills, il y avait Janice, puis d'autres que j'oublie. Après, vous aviez plein de petits ateliers aussi qui travaillaient. Les tanneries roux, l'autre tannerie là, qu'ils ont démolie, je ne me rappelle plus le nom. Et il y avait une grosse activité autour de la chaussure à Romans. Moi, le souvenir que j'en garde, c'est que chez Kélian, moi, je me dis que quand je suis rentrée, Kélian était petit. Et on a vu grandir une usine et on voit les gens arriver, la presse, les stars qui viennent. Il y en a, Jean-Paul Gaultier est venu, on a travaillé pour Jean-Paul Gaultier, Claude Montana, il s'est miaqué. Donc ces gens-là, on a travaillé pour eux. C'est là que vous dites, quand même, on doit être intéressant.
Comment est-ce que vous avez senti la crise économique qui a frappé le secteur de la chaussure ici à Romans? Comment vous l'avez senti se répercuter petit à petit sur votre activité?
Ça a commencé quand les sociétés ont commencé à fabriquer en sous-traitance à l'étranger. Hein. Alors on vous rassure en vous disant « mais non, on donne toujours le surplus ». À un moment donné, il n'y a pas de surplus. Hein, donc, et puis des personnes qui partent, qu'on ne remplace pas. Et puis après, du jour au lendemain, l'usine est fermée. Quoi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé hein, quand je suis partie chez Kélian. Je suis partie en vacances, donc c'était le groupe du Ménil qui était à la tête de l'usine. Et bon, ça, on avait des échos, mais on me dit non, mais tu peux partir, aucun problème. Je reçois un coup de téléphone et on me dit ne te présente pas à l'usine, hein, je crois bien qu'elle est fermée.
Qui est-ce qui vous a dit ça?
Mon beau-père m'a appelé parce qu'il avait vu ça sur le journal. J'ai pris ma voiture, je suis montée à l'usine aux Tourdières. Effectivement, une pancarte, une belle affiche devant la porte, collée sur la porte en disant qu'on n'était pas tenu de se présenter. Voilà, comment on a été licencié par le groupe Smalto en 2005.
Vous étiez combien?
On devait être à peu près 150 personnes encore.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là?
À ce moment-là, il faut se dire, il faut se remettre en question, chômage. Et après, je recommence à travailler. J'ai travaillé chez Valrhona, j'ai fait autre chose, j'ai essayé autre chose.
Valrhona, c'est du chocolat?
Oui, tout à fait. Et après, M. Cavacas, qui à l'époque travaillait pour M. Royer, cherchait quelqu'un, parce que Royer avait racheté la marque Kélian et Jourdan, et il cherchait quelqu'un pour le tresser. Donc, mon profil, ce que je faisais chez Kélian, j'allais le refaire chez Royer. Donc, le tressé ne s'est pas développé comme il espérait. Donc, j'ai fait une autre formation sur la machine à tôle. Donc, depuis, je coupe. Et puis, quand il y a un peu de tressage, une ou deux bricoles, je tresse.
Alors, c'est ça, la machine à tôle, c'est cette grande machine devant laquelle vous êtes, avec un écran d'ordinateur devant et un grand écran, un rétroprojecteur, en fait, devant vous. Et qui sert à quoi, cette machine?
La machine, elle sert à découper. Donc, au lieu de couper à la main comme on coupait avant, on coupe à la machine. C'est une flash cut, donc c'est une petite lame de cutter. Le modèle est posé sur la peau. On lance la machine et la machine, elle coupe.
Vous aviez imaginé que vous reviendriez à la chaussure une fois que vous avez quitté Kélian?
J'avais toujours espoir parce que moi, j'aime bien. J'adore la chaussure parce qu'on arrive toujours à trouver un petit truc qui ne sera pas pareil que le précédent.
Est-ce que vous aimez toujours les chaussures que vous fabriquez, qu'on vous donne à fabriquer? Oui. Ou est-ce qu'il vous arrive de vous dire « j'aurais pas fait ça »
Disons que si c'est en tressé, je peux donner mon avis. Après, c'est ce qui fait aussi le charme de la chaussure, quelque chose que vous aimez pas vous, qui va plaire à des milliers de personnes. Donc après, c'est une affaire de goût. Parce que moi, chez Kélian, c'est pareil. Il y a des fois, on voyait des trucs, on disait « mais moi, je porterai jamais ça, c'est quoi cette horreur ?» Et c'est le modèle qui se vendait le mieux, hein. Des fois, le succès vient là où on l'entend pas. Quoi.
Le succès peut venir de Pamela Anderson.
Oui, pourquoi pas. Pamela Anderson, elle a quelques jolis modèles. Fidèle à elle-même, il n'y a rien en cuir parce que la pétale, la ligue des animaux, là. Donc, il n'y a rien en cuir.
C'est des chaussures en silicone, peut-être ?
Simili-cuir, comme on dit.
Faites voir, vous portez des chaussures que vous fabriquez ou pas ?
Moi, j'ai des chaussures confortables pour travailler debout. Sinon, je ne tiens pas toute la journée.
Et quand vous quittez l'usine ?
Quand je quitte l'usine, j'en ai à la maison, j'ai des clients.
Gérard Kélian, vous la connaissez bien, Incarnation, elle a travaillé avec vous pendant de nombreuses années.
C'était une fille admirable, qui percevait très bien tous les conseils que je lui donnais. Mais là, je voudrais souligner que ce n'est pas la crise économique qui a fait fermer Kélian, c'est l'incompétence de ses dirigeants qui ont fait fermer Kélian. Il faut souligner l'incompétence de ses dirigeants, la magouille du tribunal de commerce, l'incompétence du tribunal de commerce qui a fait que l'usine Kélian a fermé. Je tiens à le préciser.
Vous vous rappelez 2005, quand Incarnation et tous ses employés sont licenciés, qui apprennent leur licenciement sur la porte. Vous aviez suivi ça aux informations ?
Les cadres sont venus me trouver et j'ai participé à la création du groupe pour relancer l'affaire Kélian. Et je leur ai dit que je m'occuperais de l'affaire Kélian sans salaire, parce qu'ils n'avaient pas besoin de salaire, et qu'on relancerait l'affaire. Malheureusement, le tribunal de commerce a préféré, je sais pas, il y a dû avoir des dessous de table, il y a dû avoir, surtout que le liquidateur
judiciaire... C'est votre responsabilité, monsieur Kélian.
Oui, mais c'est ma responsabilité. Le liquidateur judiciaire de l'époque, c'est un magouilleur de renommée. Et je suppose qu'il y a eu pas mal de choses pas incorrectes dans cette affaire. Alors, je le dis haut et fort, parce que chaque fois que je l'ai dit à la télévision, on l'a pas passé. Aujourd'hui, j'en profite pour le redire.
Alors, Incarnation disait, le début de la fin, c'est quand on a commencé à délocaliser. Qui a choisi de commencer à délocaliser les activités ?
Ben, je sais pas.
C'était plus de votre époque.
La délocalisation, elle restait valable pour des produits standards. Il est vrai qu'à l'époque, un produit standard, on pouvait le faire fabriquer ailleurs, beaucoup moins cher qu'en France. Mais la délocalisation, elle était valable qu'avec des produits standards. Parce que les produits de création Kélian, entre le moment qu'il fallait donc emmener le savoir-faire à l'étranger, et j'y tenais pas. Nous, notre savoir était suffisant. Et le prix c'était pas une question, le prix. La clientèle, à n'importe quel prix, elle achetait le Kélian. Et même encore maintenant, il y a une clientèle prête à disposer le Kélian à n'importe quel prix.
Xavier Porot, vous qui voulez vous lancer fermement dans le Made in France et si possible le Made in Roman ou le Made in Drôme, est-ce que on peut vraiment tout faire ici ? Est-ce qu'il y a l'expertise suffisante encore aujourd'hui, ces savoir-faire-là ? Pour commencer, on dit qu'on monte de monteur par exemple, que le piquage coûte très cher. Jusqu'où vous pouvez aller dans votre objectif affiché ?
Moi je crois que... Déjà, il faut se réfléchir à la question du positionnement. Et je rebondis sur ce que dit Monsieur Kélian. Il faut que, avec les savoir-faire que l'on ait, on fasse des produits exceptionnels. Aujourd'hui, un tressage Kélian, tel qu'il est fait par Incarnation, personne n'a jamais été capable de le faire à l'étranger. Et on parle de choses absolument exceptionnelles qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Le tressé Kélian, personne n'a été capable, tout le monde a essayé de l'imiter, personne ne l'a égalé. Ça, c'est certain. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Jusqu'où on peut aller ? Moi, je pense que l'enjeu, ce n'est pas de faire du fabriqué forcément un roman ou du fabriqué dans la Drôme, d'une certaine manière. Nous avons des savoir-faire, d'exception dans ce bassin-là sur lesquels il faut capitaliser. Et il faut transmettre ses savoir-faire, il y a urgence à transmettre ses savoir-faire. Et c'est cette réussite dans la transmission des savoir-faire qui va nous permettre, peut-être, je ne sais pas, un jour de réécrire une histoire telle que la maison Kélian ou la maison Jourdan a pu le faire à une époque. Mais la route est encore longue.
Vous avez des aides publiques, vous êtes soutenu politiquement ? Alors, vous avez été bien accueilli ?
Ah, alors, on va dire deux choses. Sur la partie des aides... sur la partie des aides publiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le soulier français, le projet qu'on a avec cette usine qui tourne...
Donc cette plateforme que vous allez mettre à disposition d'autres marques.
Et que nous mettons déjà à disposition d'autres marques. Et qui tourne là pour l'instant. Aujourd'hui, il n'y a pas un euro de fonds publics dans ce projet-là.
Parce que vous n'en avez pas demandé ?
Alors, on en a sollicité. et on va en obtenir. Mais aujourd'hui, le problème dans, dans tout ce qui est subvention et aide publique, c'est que c'est complètement décorrélé avec les impératifs opérationnels des entreprises en termes de réactivité. Vous demandez une aide, elle tombe 6 mois après.
Okay.
Ou 3 mois après.
Vous avez du soutien politique ?
Nous avons du soutien. Moi, j'avais rencontré l'équipe d'Arnaud Montebourg qui nous a beaucoup soutenus dans notre projet l'année passée. Et je suis en relation avec l'équipe d'Emmanuel Macron et qui je l'espère, va pouvoir nous aider.
Et localement à Romans ?
Localement à Romans. Alors, c'est amusant pour la question de l'accueil parce qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai été, on peut le dire, pas très bien accueilli. Je le conçois tout à fait, un Parisien qui arrive avec ses grandes idées, où il veut expliquer comment on va relancer la chaussure. On peut avoir des suspicions et c'est humain et je le conçois tout à fait. À partir du moment où 1 an et demi après nous sommes revenus à la charge, que les choses se sont concrétisées, on a été extrêmement bien accueillis et aujourd'hui c'est un bonheur de travailler ici.
Vous allez embaucher ?
Ah ben on embauche en continu et d'ici la fin de l'année, on aura déjà bien étoffé l'équipe.
Bon, Gérard Kélian, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux à Romans ? Est-ce qu'on a manqué d'ambition ? Par exemple, les anciens ateliers de Charles Jourdan, qui sont devenus une gigantesque friche aujourd'hui à Romans, ça en dit long sur la manière dont on a traité l'histoire de la chaussure à Romans, les gens qui ont travaillé pour elle ?
Ben, l'industrie romanaise, en général, il est vrai que je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des entreprises, mais il y a eu des entreprises qui ont fermé parce qu'il y a eu des faiblesses de gestion. Hein, c'était pas uniquement le contexte extérieur, c'était à l'intérieur de l'entreprise qui avait des faiblesses et qui ont, les entreprises ont mangé de l'argent. Jourdan a mangé de l'argent pendant de nombreuses années. On peut dire que le sauveur de Jourdan, ça a été M. Wassmer qui a repris Jourdan et qui a pendant des années remis de l'argent tous les ans pour que l'affaire ne meure pas. Jusqu'au jour, il en a eu assez. Et l'entreprise a déposé le bilan. Mais M. Wassmer, on pourrait lui faire un monument à Romans. Parce que quand on voit l'argent qu'il a mis dans cette affaire, c'est phénoménal. Hein.
Et vous ne croyez pas qu'il y a quand même eu aussi, à un moment donné, une baisse de la demande de la chaussure de luxe, parce qu'on ne peut plus l'offrir ?
Non. La chaussure de luxe, il y a une clientèle. Les femmes sont admirables. Les femmes, quand elles ont des belles chaussures, à n'importe quel prix, elles les achètent. Non seulement elles les achètent par besoin, mais elles les collectionnent. Moi, je vois ma clientèle Kélian, elles avaient 50, 60 paires de chaussures Kélian.
Non.
Ah ouais. Moi, j'ai vu les filles, quand elles savaient que j'allais leur dire bonjour, elles alignaient les chaussures dans leur salon pour me montrer toutes les chaussures. Et tous les ans, elles achetaient 1 ou 2 paires de chaussures Kélian.
Mais ça, c'est pas une autre époque, ça?
Mais non, c'est toujours. Il y a toujours une cliente dans le monde entier. Je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de personnes qu'il y a, des femmes qui ont de l'argent à dépenser et qui achètent des produits de luxe dans le monde entier. Il y en a dans toutes les grandes villes.
Ça s'adresse quand même à une minorité. Xavier Porreau.
Effectivement, je vous confirme que cette époque n'est pas révolue. Nous avons chez Ellipse des clientes qui collectionnent les paires également.
Et qui en ont jusqu'à combien ?
Oh, jusqu'à 30.
D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Xavier Porreau, Gérard Kélian ?
Moi, on peut souhaiter que notre ami Xavier réussisse. Moi, je lui souhaite beaucoup de courage. Hein, et éventuellement, si je peux l'aider, j'irai l'aider.
C'est très gentil.
Et qu'il embauche surtout. Voilà, merci à vous deux, Gérard Kélian, d'avoir été avec nous. Les chaussures Stéphane Kélian sont disponibles dans toutes les bonnes friperies. Merci à vous, Xavier Porreau, cofondateur avec Priscille Demange, donc des marques Ellipse et Bichette. Vous avez une boutique à Paris qui a ouvert d'ailleurs dans le Marais. Et puis bientôt, un magasin d'usine à Romans à venir.
Exactement.
Voilà. Merci aussi à Hélène Auton-Bernard, auteure de La Petite Histoire de Romans aux éditions Kern, dont nous mettons les références sur notre site internet, où vous pouvez commenter et télécharger cette émission à la page de Sur la Route sur franceculture.fr. Nous sommes aussi sur Twitter et sur Instagram. Voilà, notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisier au volant, copilote Sophie Bobert. Merci à France Bleu Drôme Ardèche pour son accueil. À la technique ce soir, c'était Pierre-Jean Friguet. La semaine prochaine, nous serons à l'abbaye de Citeaux, en Bourgogne, avec notamment de tout jeunes hommes qui souhaitent entrer dans les ordres et se forment auprès des anciens lors de stages, là encore appelés des aventuriers du bonheur. Nous en parlerons aussi avec l'un des scénaristes de la série Ainsi soit-il, Vincent Poimero. Dernier épisode, la semaine dernière, c'était jeudi dernier je crois. Dans un instant, il sera 19h sur France Culture, lors de retrouver Tout un monde de Marie-Hélène Freissé.